Il est 11h30, Infomag avec Jean-François Baudin.
Réunion autour du site SLN de l'Étoile du Nord à Koumac. L'activité est à l'arrêt depuis plusieurs jours en raison d'un mouvement de rouleurs de contre-acmine. La CCI s'organise en raison des affaires judiciaires à l'encontre de David Guyenne. Stéphane Yoto assure une suppléance pour la présidence de la CCI pendant quelques jours. En métropole, François Bayrou lance ses podcasts sur YouTube. Le Premier ministre veut convaincre les Français du bien fondé des mesures annoncées pour le budget 2026. Dans la page sport du cyclisme et ce transfert très remarqué dans le peloton international, Remco Evenepoel a annoncé qu'il changeait d'équipe. Et puis sur le territoire, 550 élèves du collège Baudoux et de CMD de plusieurs écoles ont participé ce matin à leur crosse annuelle. Bonjour et bienvenue dans ce journal que nous débutons par l'actualité sociale et direction Koumac, où le site SLN de l'Étoile du Nord est à l'arrêt. L'accès à la mine est en effet bloqué depuis jeudi dernier par de nombreux camions stationnés sur la route. Le syndicat Contracmine dénonce notamment ce qu'il considère être comme des dysfonctionnements administratifs. Il affirme que la SLN n'a pas déposé en temps et en heure les demandes d'autorisation d'exploiter ce site à la province Nord, les fameux permitting. Écoutez Max Fouché qui donne des explications sur ce dossier, c'est le président d'honneur de Contracmine.
Nous avons souhaité rencontrer la direction de la SMGM qui est le donneur d'ouvrage de tous les sous-traitants de l'Étoile du Nord. Mais on sait très bien qu'elle est au même titre que les sous-traitants de l'Étoile du Nord, les sous-traitants de la SLN. Alors, pour bien faire, on a souhaité rencontrer la SLN, la direction de la SLN, et la SMGM pour avoir des explications sur les permittings, sur les zones d'exploitation, sur la durée et quand on va reprendre l'activité. Sur l'avenir, sur l'angoisse qui nous pèse sur la tête, là. Alors, comme il y a une vingtaine de sous-traitants qui sont à l'Étoile du Nord et 80 salariés, je pense que c'est pas négligeable.
Une réunion se tient ce matin entre la direction de la SLN, la SMGM, la société minière Georges Montagna, et le Contracmine. Ambiance de crise à la CCI depuis la mise en garde à vue de David Guyenne. 11 élus de la Chambre qui étaient sur la liste d'opposition Alliance pour la relance aux dernières élections demandent une Assemblée générale extraordinaire. Et la direction de la Chambre est obligée de se réorganiser, Elisabeth Noir.
David Guyenne fait l'objet d'une enquête judiciaire portant sur des soupçons d'abus de biens sociaux, de blanchiment et de recel. Mais il bénéficie bien sûr de la présomption d'innocence. Et cela ne concerne que ses affaires personnelles. Mais cette enquête a naturellement des retombées pour la CCINC dont il est le président. Et il a donc choisi de faire une pause et de prendre du recul. C'est Stéphane Yoto, l'un des vice-présidents de la Chambre, qui assure la suppléance pendant une semaine.
Aujourd'hui, David a pris un peu de temps pour lui, et je pense qu'il en avait besoin compte tenu des circonstances. Donc cette semaine, j'assure la suppléance, et puis David reviendra aux manettes à partir de lundi prochain.
Quelle a été la réaction des membres consulaires de la CCI en apprenant ce qui s'était passé?
À la fois, David est président de la CCI, c'est aussi un ami et un collègue chef d'entreprise, donc ce qui lui est arrivé, forcément, on a été d'abord incrédule. Il s'est passé 48 heures où on n'a pas eu d'informations à part un communiqué de presse du parquet. Et puis ensuite, David a pu, lorsqu'il est sorti, nous expliquer un petit peu la situation. Donc aujourd'hui, on va laisser la justice faire son travail. On ne va pas commenter ça, surtout que c'est les affaires personnelles de David Guyenne. Donc aujourd'hui, la CCI continue à travailler comme elle l'a toujours fait.
Dans ce contexte, on le sait, 11 élus de la liste d'opposition Alliance pour la relance aux dernières élections ont publié hier un communiqué. Ils demandent la tenue d'une assemblée générale extraordinaire, une réunion d'urgence d'ici la fin de la semaine. Cette réunion va bien avoir lieu, nous dit Stéphane Yoto, mais l'ordre du jour n'est pas encore fixé.
Nous comprenons tout à fait le besoin d'information qui est dans cette demande et c'est prévu dans les statuts et ça va se faire.
Quel peut être l'ordre du jour d'une telle réunion? Est-ce que ça peut porter sur une destitution du président, sur une réélection d'un autre président?
Alors c'est justement la question qu'on leur a posée, c'est-à-dire qu'on leur a dit on veut bien organiser cette AGE, mais il y a des formes et il faut nous donner un ordre du jour. Aujourd'hui, on ne l'a pas.
Est-ce que vous accepteriez une réunion qui provoque une réélection d'un nouveau président?
Je pense que dans le courrier qui a été envoyé, c'est d'abord une demande de partage d'informations. On n'en est pas là.
Entre-temps, la CCI s'organise. Elle prépare notamment les réunions avec Claire Durieux, membre de la mission interministérielle qui vient préparer les réformes économiques dont a besoin la Nouvelle-Calédonie. Et Stéphane Yoto affirme que la CCI fait face à la crise.
C'est un moment de crise, on se serait bien passé de ce genre d'avatar alors qu'on a plein d'autres choses bien plus importantes à gérer. L'économie est au plus bas et c'est pas fini. L'accord de Bougival, ma foi, on a tous des gros points d'interrogation sur ce qui a été signé, sur ce qui en débouchera. Donc oui, il y a bien d'autres choses plus importantes à gérer.
Dans ce contexte, est-ce que le fonctionnement de la CCI est perturbé ou est-ce que les choses continuent normalement depuis une dizaine de jours ?
Non, les choses continuent absolument normalement. On a informé les collaborateurs, d'ailleurs les premiers, et aujourd'hui les missions continuent. La direction générale, toutes les équipes sont vraiment d'excellents professionnels et il n'y a pas de souci.
Stéphane Gnotto qui assure donc la suppléance pendant une semaine à la présidence de la CCINC en attendant le retour lundi de David Guyen. Une assemblée générale extraordinaire devrait donc se tenir entre-temps.
Radio Rythme Bleu, 11h36.
Le gouvernement fait un point d'étape sur la situation assurantielle des entreprises calédoniennes touchées par les émeutes. 3590 sinistres ont été recensés pour un coût total estimé à 113 milliards de francs. À ce stade, 81% des sinistres déclarés ont déjà donné lieu à un versement pour un montant total de 62 milliards 300 millions de francs, Nicolas Legrand.
Oui, les dommages aux biens des professionnels représentent un peu moins de la moitié des dossiers, mais 95% du montant total des indemnisations. C'est pourquoi le gouvernement indique rester mobilisé pour accompagner les entreprises touchées et favoriser une reconstruction dans les meilleures conditions possibles. Dans son communiqué, le gouvernement annonce avoir obtenu des ajustements significatifs des dispositifs et notamment la prolongation du délai de reconstruction pour tenir compte des contraintes locales. Le délai contractuel pour bénéficier de la garantie valeur à neuf a été porté de 2 à 3 ans. Et afin de sécuriser la relance des entreprises, la garantie pour les pertes d'exploitation pourrait être activée au moment de la reprise effective de l'activité, même si celle-ci intervient au-delà de la période d'indemnisation prévue au contrat. L'État, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les compagnies d'assurance collaborent actuellement à la mise en place d'un dispositif durable de couverture du risque émeute adapté aux réalités calédoniennes.
Il est temps de marquer une première pause dans ce journal à 11h et bientôt 38 minutes avant de voir dans un instant ce qui fait le reste de l'actualité en Calédonie avec une page consacrée aux faits divers.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
On la croyait disparue à tout jamais, mais cette année, elle est de retour.
Mais attends, mais tu parles de qui, là ?
De la...
La foire de Bourail. Eh oui, elle est de retour après le Royal Caledonia Show. À Nouméa, la foire de Bourail, la vraie, la seule et l'unique, celle qui rassemble toute la Calédonie, la préférée des Calédoniens, celle qui se déroule à Téné.
Oui, non, mais ça va, on a compris, là.
C'est les 15, 16 et 17 août 2025 pour la 47e édition. Plein de changements et de surprises vous attendent. Alors rendez-vous à Bourail les 15, 16 et 17 août.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, piège préventif et barrière chimique.
Déductible de vos impôts. Info sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La suite de l'actualité en Calédonie avec les faits divers et signalons d'abord ces deux accidents de la circulation survenus ce matin, heureusement sans gravité. Le premier s'est produit peu avant 6h au Mont-d'Or, sur la voie de dégagement est au niveau de la station mobile de la Conception. Il s'agit d'un accrochage entre un fourgon et un pick-up, pas de blessés à signaler. Un second accident est survenu, lui, à Nouméa, au niveau de l'échangeur de Doniambo. Un véhicule a heurté un motard. La victime n'a été que légèrement blessée à la jambe et à l'épaule. Elle a été prise en charge par les pompiers et évacuée sur le Médipôle à Koutio. D'autre part, la police enquête sur un cambriolage à Tinagolf le dernier week-end de juillet. Le préjudice est très important. Le butin est composé d'un fusil, d'une Porsche, mais aussi d'une trentaine de montres, dont certaines de marques de luxe, pour un montant de 10 millions de francs. La voiture a été retrouvée en zone gendarmerie sur la commune de Canala. Le chauffeur a été arrêté et l'enquête se poursuit. Et de son côté, la gendarmerie indique avoir arrêté 9 individus dans des affaires de cambriolage dans le Grand Nouméa. Plusieurs vols ont touché des habitations de l'agglomération durant la dernière quinzaine de juillet, notamment les 22, 29 et 30 juillet à Païta et le 28 juillet à Dembéa. Les auteurs répondront prochainement de leurs actes devant la justice. La police qui veut sécuriser le centre-ville de Nouméa. Depuis plusieurs mois, des troubles à l'ordre public sont signalés. Il y a deux jours, le Nakamal Le City a été fermé administrativement pour 2 mois en raison de faits de violence répétés aux abords de l'établissement. Anne-Gabrielle Guébélil, la directrice adjointe de la police nationale, était notre invitée ce matin à 7h30.
C'est un établissement sur lequel on avait eu plusieurs signalements depuis plusieurs mois. Il y a des réunions avec des partenaires qui ont eu lieu dans le cadre d'un GPO, un groupement des partenaires opérationnels. Et l'idée, vraiment, c'était qu'on mette un terme à toutes ces incivilités et tout ce sentiment d'insécurité qui était généré en partie par Snack Amal. Donc, en effet, il y a eu plusieurs agressions devant Snack Amal et il était de notre devoir d'assurer que cet établissement qui accueille du public respecte les mêmes règles que tous les autres établissements. Et donc, c'est pour ça que, suite à tous ces faits répétés sur ce parking, il a été décidé de demander une fermeture administrative au commissariat.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a une surveillance particulière autour des Nakamal, qui sont des lieux où il y a beaucoup de choses qui se passent ?
Alors la surveillance, elle porte sur tous les établissements qui accueillent du public, hein, pas les Nakamal en particulier. Ce qu'on veut vraiment rappeler à tout le monde, c'est que tout le monde doit respecter la règle et qu'aucun établissement ne doit causer des troubles à l'ordre public. Voilà, à Nouméa, tous les établissements doivent se conformer à une certaine règle et les gérants d'établissements doivent être responsables de leur population et du public qu'ils accueillent.
En Nouvelle-Calédonie, sur le premier semestre de l'année, les cambriolages de résidences ont augmenté de près de 30% par rapport à la même période en 2023. C'est donc naturellement un point de vigilance particulier pour la police, nous a dit Anne-Gabrielle Guébélil.
C'est vrai que les cambriolages sont en augmentation et donc on en fait une priorité. On adapte nos patrouilles, on sectorise évidemment tous les faits, tous les policiers sont dans les quartiers les plus touchés. Et on traite les procédures le plus rapidement possible.
Alors comment on fait pour lutter contre les cambriolages ? Il faut aussi sensibiliser les habitants des maisons à prendre les gestes nécessaires, à faire les bons choix avant de quitter leur maison ?
Oui, alors ça passe aussi par ces conseils-là. Bon, évidemment, l'important aussi, c'est qu'on puisse interpeller les auteurs. Donc nous, il faut qu'on accentue nos patrouilles et puis qu'on les oriente dans les bons secteurs. Après, c'est vrai que des conseils de vigilance, ne pas laisser la porte ouverte, ne pas laisser les clés fermées le soir quand on dort chez soi, c'est vrai que ce n'est pas des habitudes qui étaient peut-être communes ici, en Nouvelle-Calédonie, mais je crois qu'il faut s'y mettre maintenant.
Anne-Gabrielle Guébélil, la directrice adjointe de la police nationale, qui était donc notre invitée ce matin à 7h30, est également revenue sur les violences à l'égard des forces de l'ordre. Les policiers essuient toujours des caillassages quasi quotidiennement. L'un d'entre eux a été blessé à une main le week-end dernier lors d'un jet de pierre. Une interview à retrouver en intégralité sur notre site internet. Notez qu'après 3 ans en Nouvelle-Calédonie, Anne-Gabrielle Guébélil quitte le territoire au terme de son affectation à la fin de la semaine pour rejoindre son nouveau poste à Clermont-Ferrand.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est lors de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici d'abord la réponse à notre question d'hier. 97% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'il faut durcir la réglementation et le contrôle des Nakamal. Ils ne sont que 3% à exprimer un avis contraire. Voici notre question du jour. Manuel Valls a-t-il raison, selon vous, de réunir dès que possible le comité de rédaction destiné à préparer la mise en œuvre juridique de l'accord de Bougival? Si vous pensez qu'il a raison, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La ville de Nouméa ouvre un concours de sapeurs-pompiers professionnels, un concours externe ouvert à toute personne, mais aussi un concours interne appelé réservé aux pompiers volontaires notamment. Un passage obligatoire pour être inscrit sur la liste d'aptitude qui permettra ensuite aux candidats de pourvoir l'un des 28 postes ouverts. Écoutez, le commandant Géraldine Bourgoin, c'est la directrice des services incendie et secours de la ville de Nouméa.
Vous avez les dossiers d'inscription qui sont soit en ligne sur le site de la ville ou bien sur le site de la DRHFPNC. Vous pouvez aussi aller rechercher des dossiers au niveau du service des ressources humaines de la ville de Nouméa. Alors déjà, il y a des conditions à remplir pour pouvoir passer ce concours. Vous avez deux concours, un concours qui est dit externe, qui est ouvert à toute personne, même si vous n'êtes pas déjà sapeur-pompier volontaire. Il faut être âgé entre 18 et 30 ans. Avec des reportages possibles si vous avez des enfants, etc. Vous devez avoir un casier judiciaire vierge et également être titulaire du permis de conduire de voiture au moment de l'inscription. Pour le concours externe, vous devez être titulaire d'une formation de premier geste de secours, donc le PSC1 ou bien la FPS. Voilà. Pour le concours interne, cette fois-ci qu'on appelle le concours réservé, il faut être depuis 3 ans sapeur-pompier volontaire dans une des communes de Nouvelle-Calédonie.
Les inscriptions pour ce concours sont ouvertes jusqu'au 22 août. En Nouvelle-Calédonie, le nombre de cas de dengue a drastiquement chuté depuis le déploiement du programme Wolbachia, principalement dans le Grand Nouméa. Mais ce n'est pas le cas dans la région où la propagation de la dengue est réelle dans plusieurs pays. Elle a déjà fait une douzaine de victimes depuis le début de l'année. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Les îles Fidji sont le pays le plus touché jusqu'à présent, vu que, d'après son ministre de la Santé, Ratu Atonio Lalambalavu, près de 11 000 cas confirmés ayant été enregistrés durant les 6 premiers mois de l'année. 2334 hospitalisations dues à la maladie ont été recensées, a-t-il dit, et 9 personnes en sont mortes. La situation est tout aussi critique au Samoa, où 2270 cas de dengue ont été comptabilisés depuis le 1er janvier. 4 enfants en bas âge lui ont également succombé. Les médecins néo-zélandais sont quant à eux en alerte face à la recrudescence des cas de dengue chez les personnes revenant de l'étranger. 208 ont en effet contracté la maladie ces 6 derniers mois et un tiers d'entre elles ont dû être hospitalisées. Tous les cas avaient été importés dans le pays vu que le moustique vecteur du virus n'y existe pas. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et puis toujours dans la région, des discussions vont se poursuivre à propos de Matthew et Hunter dans un communiqué commun de la France et du Vanuatu. Les deux pays dévoilent un calendrier. Lors d'une visite à Paris du Premier ministre vanuatais, ils se sont engagés à maintenir un dialogue ouvert, transparent et constructif sur les questions de souveraineté relatives aux îles Matthew et Hunter, ainsi que la délimitation maritime, et à travailler ensemble pour parvenir à une solution amiable. Emmanuel Macron et Jotam Napat ont convenu de charger leurs équipes de négociation sur la délimitation maritime d'engager des discussions dans les meilleurs délais avec un mandat complet pour négocier l'ensemble des questions en suspens. Le premier cycle de négociations se tiendrait à Port-Vila dans les prochains mois et un deuxième cycle sera ensuite ouvert en France avant la fin de l'année. Il est 11h47. Dans un instant justement, ce sera l'essentiel de l'actualité en métropole, mais aussi dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Jusqu'au 19 septembre, les mois du Super Taux reviennent à la BCI. Réalisez toutes vos envies grâce à un taux exceptionnel sur le prêt conso grande vitesse. Avec toujours votre accord de crédit sous 24 heures et le versement sur demande des fonds sous 8 jours. C'est le moment d'en profiter. BCI. Ensemble, voire plus loin. Offre valable du 7 juillet au 19 septembre 2025, réservée aux particuliers et soumise à conditions.
Ducos Quincaillerie est à Bourail. Découvrez Bourail Bricolage. Sur plus de 300 mètres carrés, des milliers de références, une équipe locale et des offres promotionnelles. Rendez-vous en magasin ou appelez le 322-332.
Votre linge adore la lessive extra. Et vous aussi. Jusqu'au 31 août, tentez de gagner de quoi mettre un coup de propre dans votre buanderie. 2 machines à laver, 2 centrales vapeur et 2 robots aspirateurs sont en jeu. Pour t'inscrire au tirage au sort, scanne le QR code en magasin ou rends-toi sur jouet.nc. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Plus d'informations sur le Facebook sake.nc. Règlement déposé chez Maître Citrita.
Toute l'info en 3 lettres. RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole, on retrouve Jean-François Bodin.
Oui, c'est la trêve estivale, y compris pour la classe politique et le gouvernement, mais le Premier ministre reste mobilisé et prépare une rentrée qui s'annonce compliquée. François Bayrou vient de lancer une série de podcasts FB Direct sur YouTube. Il dit vouloir débattre et informer les Français sur le bien fondé des mesures annoncées pour le budget 2026. Une opération communication-explication en quelque sorte.
Je voudrais, pendant les semaines qui viennent, partager avec vous la nécessité qui est devant nous et que nous ne pouvons pas mettre de côté. Tous les responsables partent en vacances, bien mérités, ce que je ne ferai pas. Parce que les jours que nous allons vivre pendant ces semaines du mois d'août et du début du mois de septembre sont absolument cruciaux. C'est le moment où tout va se jouer. Les efforts sont à faire aujourd'hui. On ne peut pas repousser à demain. Quand on a atteint la somme de dette de 3 400 milliards d'euros, et si nous ne décidons pas de nous ressaisir, alors c'est que nous sommes irresponsables devant nos enfants.
Le premier podcast d'une série à suivre du Premier ministre sur lequel plane toujours la menace d'une motion de censure lors de la présentation du budget au Parlement dans quelques semaines. En bref, une infirmière de l'hôpital de Montreuil en Seine-Saint-Denis, mise en examen pour agression sexuelle sur mineur et diffusion d'images à caractère pédopornographique. Elle aurait maltraité plusieurs très jeunes enfants au sein du service maternité dans lequel elle travaillait. Elle a indiqué aux enquêteurs qu'elle était sous l'emprise de son compagnon qui l'obligeait à commettre ses actes, qu'il diffusait ensuite. Il a été mis, lui, de son côté en examen pour complicité d'agression sexuelle sur mineur et complicité de diffusion d'images à caractère pédopornographique. C'est l'incendie le plus virulent depuis le début de la saison. Plus de 10 000 hectares sont partis en fumée en quelques heures dans l'Aude. Le feu n'est toujours pas maîtrisé et il progresse à une vitesse de 25 km/h, ce qui est très rapide, explique Christian Reynaud, le directeur du SDIS de l'Aude.
C'est très rapide. Hein. On avait un vent entre 40 et 60 km/h. La végétation très fortement séchée. Alors le vent a l'air de se poser un peu, ce qui est rassurant quand même. Mais bon, le feu n'est pas du tout fixé. On espère que dans la nuit, tout ça va se calmer. Hein. On ne sait pas comment ça peut tourner. S'il y a une rafale de vent, ça va vite. En espérant qu'on va pouvoir protéger à minima les maisons quoi, et les habitants.
Et plus de 1000 pompiers luttent contre les flammes, appuyés par l'ensemble des moyens aériens du territoire national. Plusieurs habitants ont été contraints de quitter leur domicile pour rejoindre des centres d'hébergement d'urgence. L'actualité à l'étranger avec la réunion en urgence aussi du Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'agit d'évoquer le conflit entre Israël et le Hamas qui a diffusé des vidéos de deux otages très affaiblis et visiblement malmenés. Vidéos qui font beaucoup réagir. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui appelle toujours à une intensification des combats pour désarmer le Hamas dans la bande de Gaza, réunit de son côté son cabinet de sécurité. Un conflit qui continue d'avoir des répercussions multiples sur un vol de la compagnie Iberia. Assurant la liaison Buenos Aires-Madrid, plusieurs plateaux repas distribués à des passagers de confession juive portaient l'inscription « Free Palestine ». Une association a dénoncé un acte grave d'antisémitisme. Wilfried de Villers pour Europe 1.
C'est la délégation des associations israélites argentines qui la première a relaté l'information alertée par plusieurs passagers de confession juive qui avaient commandé un repas cachère. Pendant le vol, au moment du repas, il est distinctement inscrit « Free Palestine » sur une étiquette blanche collée sur l'emballage en aluminium de l'un des plats. D'autres personnes ont-elles reçu leur plateau avec les initiales FP inscrites là aussi au stylo, précise l'organisation qui affirme avoir pris contact avec la compagnie aérienne espagnole. Dans un communiqué, Iberia reconnaît l'incident tout en assurant avoir lancé une enquête en interne ainsi qu'avec les fournisseurs responsables du service des repas. Si les passagers concernés expliquent avoir reçu les excuses du pilote, tous déplorent cet acte antisémite. Un incident qui en rappelle un autre. Il y a deux semaines, cette cinquantaine d'adolescents français de confession juive débarquaient d'un vol Vueling. La compagnie avait alors dénoncé le comportement perturbateur des adolescents, version démentie par leurs accompagnateurs qui évoquent des discriminations sur le fondement de la religion après que l'un des jeunes ait entonné un chant en hébreu.
Il sera 11h53 dans quelques secondes. Une pause et on se retrouve pour évoquer toute l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Votre 4x4 demande de l'aventure? Chez Calais Pneus, choisissez BF Goodrich, la référence des pneus 4x4 tout-terrain en Calédonie. Jusqu'au 23 août, moins 20% sur tous les pneus 4x4 BF Goodrich. Changez, roulez, explorez avec Calais Pneus PK4 et Gonnet. Visitez notre page Facebook.
Vous partez bientôt en métropole faire vos études et vous galérez encore à trouver un logement? Le bureau d'accompagnement des étudiants de la province sud peut vous aider. Composez vite le 20 49 68 ou le 20 49 46.
La province sud, agir pour l'avenir.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
Infomag, l'actu sport, on retrouve Jean-François Baudin.
Et on va commencer par l'actualité du cyclisme pour parler de ce transfert retentissant. Léo Fichou, Remco Evenepoel quitte la team Soudal Quick-Step.
Oui, le Belge de 25 ans semble être lié pour un bon bout de temps au Wolfspack, surnom de l'équipe. En 2021, au moment de signer sa prolongation de 5 ans, il disait qu'un vrai loup ne quitte jamais la meute. Et pourtant, Remco Evenepoel quittera bien la team Soudal Quick-Step pour évoluer dès 2026 chez Red Bull Bora Hansgrohe. Le double champion olympique et triple champion du monde rejoint notamment Florent Lipovic, troisième du Tour de France, et le désormais vétéran de 35 ans, Primoz Roglic.
Du tennis aussi, avec les derniers quarts de finale hommes et dames à l'Open du Canada.
Des quarts de finale sans français, puisque les derniers en lice, Alexandre Muller et Arthur Fils, ont été éliminés en 16e de finale. Chez les hommes, qui sont du côté de Toronto, André Rublev est opposé à Taylor Fritz, tandis qu'Alex de Minaur, l'Australien, affronte Ben Shelton. Dans l'autre partie du tableau, Alexander Zverev a dominé Alexei Popirin hier et retrouvera en demi-finale Karen Khachanov, tombeur d'Alex Mikkelsen. Chez les dames qui disputent le tournoi à Montréal, Madison Keys joue contre Clara Towson et Elina Svitolina est opposée à Naomi Osaka. Hier, je rappelle qu'Elena Rybakina s'est qualifiée en demi-finale après l'abandon de Marta Kostiuk. Elle affrontera la locale Victoria Mboko.
En football, on rappellera que la saison européenne de l'OGC Nice démarre demain matin. Les Aiglons disputeront à partir de 6h le match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions face aux Portugais du Benfica Lisbonne. En cas de qualification à l'issue de cette double confrontation, les Niçois retrouveront soit les Néerlandais de Feyenoord Rotterdam, soit les Turcs de Fenerbahçe. Le sport sur le territoire, c'est aussi du football, Léo, et le début des phases éliminatoires de la Super League.
Deux matchs de barrage au programme samedi au stade Nemadélé, Horizon Passo contre le SC Negeo à 14h, puis l'AS Mondor contre le CA Saint-Louis à 17h30. Les vainqueurs s'affronteront en quart de finale. Et on connaît déjà les trois autres quarts de cette Super League. Tigasport, AS Cougné, AS Gaïcha contre l'OSI et puis Magenta contre Yengensport.
C'est aussi du sport avec un mercredi pas tout à fait comme les autres au collège Baudoux. Près de 550 élèves étaient rassemblés ce matin pour le traditionnel cross du collège.
Un moment de partage, de plaisir et de dépassement de soi. Des plus petits, élèves de CM2, des écoles Amélie Cosnier, Frédéric Surlot et Charles Bichon, jusqu'aux plus grands, les troisièmes ont tous emprunté le même parcours. Élodie Launay, professeure de PS au collège Baudoux.
1,610 km, c'est très court, très rapide, intense, mais une grosse bosse dans l'armée. C'est un parcours qui est vallonné. Alors le départ se fait dans la base militaire et l'arrivée se fait dans le collège. Ils ont une boucle à faire. C'est toute l'équipe éducative et pédagogique qui participe à l'organisation, les collègues nous aident. Et l'objectif, c'est de faire une fête sportive. Faire l'effort aussi de courir, quel que soit son potentiel, de finir la course et bien évidemment, oui, se faire plaisir.
Et le moins que l'on puisse dire, c'est que malgré les montées, les élèves ont apprécié. Ils se sont tous dépassés dans une super ambiance.
Bah ouais, c'est chouette puisqu'il y a plein de monde et tout ça. Ce qui est un peu moins bien, c'est quand, par exemple, il y a des gens qui se blessent. C'est sûr que c'est moins drôle. Mais sinon, ouais, l'ambiance, elle est bien. Ça change des mercredis classiques, ça fait du bien. Ça... En fait, on dirait un peu un jour de week-end, mais avec une ambiance collège fun un peu.
Bah, ça s'est passé bien, ça va. Bah, il y avait surtout des grandes montées. Après, il y avait des petites descentes. Ça, c'était nul. Après, c'était bien parce que j'ai couru avec mes copines et voilà.
Parce que du coup, ça encourage à aller plus vite et c'est bien.
C'est juste les montées, c'est vraiment quand tu te prends une grande descente et qu'après tu te prends une montée, que t'as plein de boue derrière, t'es assez content. Mais oui, sinon c'était bien.
Il y avait beaucoup plus de montées que de descentes. C'était dur.
Et les trois meilleures filles et garçons de chaque classe d'âge sont montés sur le podium et ont reçu les ovations de leurs camarades.
Il est 11h57, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention.